Je me suis levé de bonne heure le lendemain, avant l'appel rituel du standard de la Maison Blanche pour me réveiller. Exceptionnellement, nous avions annulé toutes les visites de l'aile ouest pour la journée, partant du principe que des rendez-vous importants nous attendaient. J'avais néanmoins décidé de faire une rapide partie de golf avec Marvin, comme souvent les dimanches tranquilles, afin de ne pas laisser soupçonner qu'il pouvait s'agir d'un jour particulier, mais aussi pour être au grand air plutôt que dans la salle des traités à consulter sans cesse ma montre. C'était une journée fraîche et sans vent, et je n'ai pas bien joué, perdant même 3 ou 4 balles dans les bois. En regagnant la Maison Blanche, j'ai pris des nouvelles de Tom. Il était dans la salle de crise avec le reste de l'équipe et s'assurait que nous soyons prêts à parer à toute éventualité. Au lieu de le distraire par ma présence, je lui ai demandé de me prévenir lorsque les hélicoptères transportant les SEALs auraient décollé. Je suis ensuite allé dans le bureau ovale, où j'ai tenté de lire quelques documents, mais sans succès. Mes yeux survolaient les lignes sans rien intégrer. En désespoir de cause, j'ai appelé Reggie, Marvin et Pete Rouse, qui entre-temps avaient été mis au courant de ce qui se tramait, et nous nous sommes installés tous les quatre dans la salle à manger pour jouer à la toupique. À 14h, heure de Washington, deux hélicoptères Black Hawk modifiés dans une version furtive ont décollé de Jalalabad avec à leur bord 23 SEALs, un interprète américano-pakistanais de la CIA et un chien militaire nommé Cairo, sonnant le coup d'envoi de l'opération baptisée Neptune Spear, trident de Neptune. Ils avaient 90 minutes de vol jusqu'à Abbottabad. J'ai abandonné ma partie de cartes et suis retourné à la salle de crise, convertie en salle de contrôle. Léon était en liaison vidéo avec le siège de la CIA et nous relayait les informations transmises par McRaven, lui-même en lieu sûr à Jalalabad et en communication permanente avec son équipe. Dans une atmosphère évidemment tendue, Joe, Bill Daly et l'essentiel de mon équipe de sécurité nationale, dont Tom, Hillary, Dennis, Gates, Mullen et Blinken, étaient assis autour de la table de réunion. Ils m'ont exposé notre plan d'action diplomatique en cas de réussite comme d'échec vis-à-vis du Pakistan et des autres pays. Pour le cas où Ben Laden serait tué pendant le raid, toutes les dispositions étaient prises pour que le corps soit immergé en haute mer, conformément au rite funéraire musulman, évitant ainsi de créer un lieu de pèlerinage pour les djihadistes. Au bout d'un moment, j'ai deviné qu'ils ne faisaient que me récapituler le travail déjà accompli, et craignant de les déconcentrer, je suis remonté à l'étage. J'en suis redescendu juste avant 15h30, quand Léon m'a annoncé que les Black Hawks approchaient du complexe. Il était prévu que nous suivions l'opération par l'intermédiaire de Léon, car Tom redoutait qu'une communication directe avec McRaven ne laisse croire que j'étais aux commandes de l'opération, ce qui constituerait une faute professionnelle et serait politiquement périlleux en cas d'échec de la mission. Mais en me rendant à la salle de crise, j'avais remarqué un écran dans une petite salle de réunion de l'autre côté du couloir qui diffusait des images aériennes en direct. Lorsque les hélicoptères sont arrivés au-dessus de la cible, je me suis levé de ma chaise et j'ai dit « Il faut que je voie ça ». Puis j'ai foncé dans l'autre salle. J'y ai trouvé le général de brigade, Brad Webb, assis devant son ordinateur. Il a essayé de me céder son fauteuil, mais je lui ai dit « Restez assis », en lui posant une main sur l'épaule. Et j'ai approché une chaise. Webb a fait savoir à McRaven et à Léon que j'étais à côté de lui et que je regardais les images. Quelques instants plus tard, toute l'équipe est venue se tasser dans la petite salle. Pour la première et unique fois de ma présidence, j'assistais à une opération militaire en temps réel. Des formes spectrales traversaient l'écran. Nous étions là depuis une minute à peine, quand l'un des Black Hawks a légèrement vacillé au cours de sa descente, et avant que j'aie le temps de comprendre ce qui se passait, McRaven nous expliquait que l'hélicoptère avait perdu momentanément de la portance et touché un des murs du complexe. Une décharge de frayeur m'a traversé pendant qu'un film catastrophe se jouait dans ma tête. L'appareil s'écrasait, les SEALs s'en extirpaient péniblement juste avant qu'ils ne prennent feu, tous les habitants du quartier sortaient dans la rue pour voir ce qui se passait pendant que l'armée pakistanaise se précipitait sur les lieux. Mais la voix de McRaven a interrompu mon cauchemar. « Rien de grave », a-t-il dit comme s'il examinait son pare-choc après avoir accroché un chariot sur le parking d'un supermarché. « C'est notre meilleur pilote, il va se poser sans encombre. » Et c'est exactement ce qui s'est produit. J'apprendrai par la suite que le Black Hawk avait été pris dans un tourbillon dû à des températures plus élevées que prévues et à l'air projeté par le rotor qui était resté coincé entre les hauts murs du complexe, obligeant le pilote et les SEALs à improviser leur atterrissage et leur sortie. Le pilote avait volontairement posé la queue de l'appareil sur le mur pour éviter de s'écraser. Mais sur le moment, je ne voyais que des silhouettes granuleuses qui se mettaient promptement en position avant de pénétrer dans la maison. Pendant 20 minutes insoutenables, même McRaven n'a eu qu'une vision limitée de ce qui se passait. ou alors il taisait les détails de la fouille méthodique menée par son équipe. Et puis, avec une soudaineté à laquelle je ne m'attendais pas, nous avons entendu McRaven et Léon prononcer, au même instant, les mots que nous espérions et qui signalaient l'aboutissement de plusieurs mois de préparatifs et de plusieurs années de collecte d'informations. Geronimo identifié. Geronimo abattu. Oussama Ben Laden, nom de code Geronimo pour les besoins de cette mission, l'auteur du pire attentat terroriste de l'histoire des États-Unis, l'homme qui avait commandité le meurtre de milliers de personnes et fait basculer le monde dans une période tumultueuse de son histoire, avait été puni par une équipe de Navy Seals de l'armée des États-Unis. J'étais comme hypnotisé par ces images. « On l'a eu », ai-je soufflé. Personne n'a bougé pendant encore une vingtaine de minutes, le temps pour les Seals de terminer leur mission, placer le corps de Ben Laden dans un sac, mettre les trois femmes et les neuf enfants en sécurité et les interroger dans un coin du complexe, ramasser les ordinateurs, les dossiers et tout ce qui était susceptible de nous fournir des renseignements et fixer des explosifs au Black Hawk endommagé pour le détruire. Tandis qu'un hélicoptère Chinook de sauvetage, qui patientait en vol stationnaire non loin de là, venait récupérer les hommes. Quand les deux appareils ont décollé, Joe m'a serré l'épaule. « Félicitations, patron. » Je me suis levé et j'ai opiné. Dennis m'a tapé dans le poing. J'ai serré la main de tous ceux qui se trouvaient présents. Mais les hélicoptères n'étant pas encore sortis de l'espace aérien pakistanais, l'ambiance restait grave. C'est seulement aux alentours de 18h, une fois qu'ils se sont posés à Jalalabad, que je me suis enfin légèrement détendu. Un peu plus tard, par liaison vidéo, McRaven nous a annoncé qu'il avait le corps sous les yeux et qu'il s'agissait sans erreur possible de Ben Laden. Le logiciel de reconnaissance faciale de la CIA parviendrait bientôt à la même conclusion. Par acquis de conscience, McRaven a demandé à un membre de son équipe, mesurant 1m89, de s'allonger à côté du corps, afin de comparer sa taille avec celle de Ben Laden, estimée à 1m95. Sérieusement, Bill, tous ces préparatifs et vous n'avez même pas pensé à prendre un mètre ? Lui ai-je demandé en riant. C'était la première phrase légère que je prononçais de la journée. Mais les rires se sont rapidement tus, dès que les photos de la dépouille ont commencé à circuler autour de la table. J'y ai jeté un bref coup d'œil. C'était bien lui. Malgré cette évidence, Léon et McRaven ont déclaré que nous ne pourrions pas en être tout à fait certains tant que nous n'aurions pas les résultats des tests ADN, qui pourraient prendre un jour ou deux. Nous songions à retarder l'annonce officielle, mais la nouvelle du crash d'un hélicoptère américain à Abbottabad commençait déjà à se répandre sur Internet. Mike Mullen avait passé un coup de fil au chef d'état-major de l'armée pakistanaise, le général Ashfaq Parvez Kayani, et même si la conversation était restée polie, Kayani avait exigé que nous disions la vérité sur le raid et sa cible dans les meilleurs délais pour que ses équipes ne soient pas dépassées par la réaction de la population. Puisqu'il n'était pas possible d'attendre 24 heures de plus, je suis monté avec Ben pour lui dicter rapidement ce que je pensais dire aux Américains dans la soirée. Pendant plusieurs heures, l'aile ouest a tourné à plein régime. Tandis que les diplomates entraient en contact avec les gouvernements étrangers et que notre service de presse préparait les communiqués, j'ai appelé George W. Bush et Bill Clinton pour leur annoncer la nouvelle, en veillant à souligner auprès de Bush que cette mission était l'achèvement d'un long et difficile processus entamé sous sa présidence. Malgré l'heure tardive de l'autre côté de l'Atlantique, j'ai aussi appelé David Cameron pour remercier notre allié le plus proche de nous avoir apporté son aide indéfectible depuis le début de la guerre d'Afghanistan. Je m'attendais ensuite à avoir une conversation délicate avec le président pakistanais, Asif Ali Zardari, qui traversait déjà une mauvaise passe et pour qui notre violation de la souveraineté de son pays serait certainement source de critiques supplémentaires. Mais lorsque je suis parvenu à le joindre, il m'a exprimé ses félicitations et son soutien. « Quelles que soient les conséquences, c'est une très bonne nouvelle », m'a-t-il dit. Il m'a rappelé avec une profonde émotion que son épouse, Benazir Bhutto, avait été assassiné par des extrémistes soupçonnés d'être liés à Al-Qaïda. Avec toute cette frénésie, je n'avais pas vu Michel de la journée. Un peu plus tôt, je l'avais informée de ce qu'allait se passer, et au lieu d'attendre anxieusement à la Maison Blanche, elle avait confié Malia et Sacha à leur grand-mère et était sortie dîner avec des amis. Je venais tout juste de me raser et d'enfiler un costume quand elle est rentrée. « Alors ?» m'a-t-elle demandé. J'ai levé le pouce et elle a souri en m'attirant dans ses bras. « C'est formidable, chérie, vraiment. Comment tu te sens ?»« Pour le moment, seulement soulagé, mais on en reparle dans quelques heures. » Dans l'aile ouest, j'ai mis la touche finale à ma déclaration en compagnie de Ben. Je lui avais donné quelques grandes lignes. Je voulais rappeler notre angoisse partagée lors du 11 septembre et notre sentiment d'unité au cours des jours suivants. Je voulais rendre hommage aux personnes qui avaient permis de mener à bien cette mission, mais aussi à toute notre armée et à la communauté du renseignement qui se sacrifiait chaque jour pour assurer notre sécurité. Je voulais répéter que c'était contre Al-Qaïda que nous nous battions, pas contre l'islam. Et je voulais terminer en rappelant au monde et aussi à nous-mêmes que les États-Unis accomplissaient ce qu'ils avaient décidé d'accomplir, que notre pays était encore capable de réaliser de grandes choses. Comme chaque fois, Ben avait réussi à tisser en moins de 2 heures un beau discours à partir de mes idées éparses. Je savais que celui-ci revêtait pour lui une signification toute particulière, car l'effondrement des tours jumelles avait changé le cours de sa vie en le poussant vers Washington avec une envie dévorante d'agir. Cette réflexion m'a ramené au souvenir que je gardais de ce jour-là. Michel avait conduit Malia à sa première journée de maternelle. Je me tenais devant le siège du gouvernement de l'Illinois à Chicago, accablé et rempli de doutes après avoir eu Michel au téléphone et lui avoir assuré qu'elle et les filles ne couraient aucun danger. Le soir, Sacha, 3 mois, dormait sur ma poitrine pendant que, assis dans le noir, je regardais les informations en tentant de joindre mes amis new-yorkais. Tout comme celle de Ben, ma vie avait été bouleversée dans des proportions inimaginables par cette journée, qui avait mis en branle une série d'événements devant aboutir à ce moment précis. Après avoir relu une dernière fois mon discours, je me suis levé, j'ai donné une tape dans le dos de Ben. Beau boulot, camarade. Il a acquiescé. Une foule d'émotions se bousculait sur son visage, et il est sorti à toute allure pour ajouter mes dernières modifications dans le prompteur. Il était presque 23h30. Les grandes chaînes avaient déjà annoncé la mort de Ben Laden et allaient à présent diffuser mon discours en direct. Derrière les grilles de la Maison Blanche, plusieurs milliers de personnes en liesse occupaient toute la rue. En sortant dans la fraîcheur de la nuit et en me dirigeant par la colonnade vers le salon Est, depuis lequel j'allais m'exprimer, j'entendais toutes ces voix scander « USA, USA, USA » dans Pennsylvania Avenue, un bruit qui portait loin et continuerait à résonner tard dans la nuit. Les jours suivants, même une fois l'exultation retombée, nous avons senti un changement palpable dans l'humeur du pays. Pour une fois au cours de ma présidence, nous n'étions pas obligés de prouver le bien fondé de notre action. Nous n'avions pas à esquiver les tirs des républicains ou à répondre à des électeurs nous accusant d'avoir enfreint un principe fondamental. Aucun accroc dans l'exécution de la mission et aucune mauvaise surprise ensuite. Il me restait cependant des décisions à prendre, notamment celle de diffuser ou non les photos du corps. J'étais plutôt contre. Je trouvais que nous n'avions pas besoin de faire un tour d'honneur en brandissant ce trophée sinistre, et je ne voulais pas que l'image de Ben Laden ayant reçu une balle dans la tête devienne un symbole de ralliement pour les extrémistes. Il nous fallait aussi veiller à nos relations avec le Pakistan. Même si les documents et ordinateurs saisis dans le complexe s'étaient révélés une véritable mine d'or qui confirmait que Ben Laden avait continué à jouer un rôle central dans la planification d'attentats contre les États-Unis, mais aussi que nous avions fait peser une pression énorme sur son organisation en ciblant ses chefs, nous demeurions convaincus que nous n'en avions pas terminé avec Al-Qaïda. Ce qui était indiscutable en revanche, c'est que nous lui avions porté un coup décisif qui nous rapprochait un peu plus de la victoire stratégique. Même nos détracteurs les plus acharnés ont dû admettre que cette opération avait été un succès total. Quant au peuple américain, le raid d'Abbottabad lui offrait une sorte de catharsis. Nos soldats se battaient en Afghanistan et en Irak depuis près d'une décennie, avec des résultats plus que discutables. La violence extrémiste allait persister sous une forme ou une autre, et il n'y aurait ni bataille finale, ni capitulation officielle. L'opinion s'est donc emparée instinctivement de la mort de Ben Laden, car c'était ce qu'elle obtiendrait de plus proche d'une victoire. Et dans une période de difficultés économiques et de rancœur partisane, il y avait une réelle satisfaction à voir le gouvernement remporter une victoire. Pour les milliers de familles qui avaient perdu des êtres chers lors du 11 septembre, cette mission revêtait une signification encore plus intime. Le lendemain de l'opération, parmi les 10 courriers de citoyens américains qui m'étaient transmis quotidiennement, figurait un email d'une jeune fille, Peyton Wall, âgée de 4 ans le jour des attentats et qui en avait désormais 14. Elle m'expliquait que son père se trouvait dans une des tours et leur avait téléphoné avant qu'elle ne s'écroule. Toute sa vie, Peyton avait été hanté par le souvenir de la voix de son père et par l'image de sa mère en pleurs au téléphone. Bien que rien ne puisse jamais remédier à cette absence, elle voulait m'assurer, ainsi qu'à toutes les personnes ayant contribué à cette opération, combien il était important pour elle et sa famille que les États-Unis n'aient pas oublié son père. Seul dans la salle des traités, j'ai relu plusieurs fois cet email, les larmes aux yeux. J'ai pensé à mes filles et à leur peine si elles perdaient leur mère ou leur père. J'ai pensé aux jeunes gens qui s'étaient engagés dans l'armée après le 11 septembre, déterminés à servir leur pays, quoi qu'il leur en coûte. Et j'ai pensé aux parents des soldats blessés ou tués en Irak et en Afghanistan, aux Gold Star Moms, ces mères qui avaient perdu un enfant sous les drapeaux et que Michel et moi avions réconfortées, et aux pères qui m'avaient montré des photos de leur fils disparu. J'étais immensément fier de toutes les personnes qui avaient pris part à cette mission. Il y avait les SEALs, bien entendu, mais aussi les analystes de la CIA qui avaient remonté la piste jusqu'à Abbottabad, les diplomates qui s'étaient préparés à faire face aux retombées, l'interprète américano-pakistanais qui était resté à l'extérieur du complexe pour éloigner les curieux pendant leur aide. Toutes ces personnes avaient travaillé ensemble, sans heurts et avec altruisme, sans chercher la gloire et au mépris de leurs différences partisanes, tendues vers le même but. Ces pensées en ont entraîné une autre. Cette unité dans l'effort, ce sens du devoir, n'était-il possible que lorsqu'il s'agissait de tuer un terroriste? C'était une question qui me taraudait. Malgré la fierté et la satisfaction que me procurait cette mission, je n'étais pas aussi euphorique qu'après l'adoption de la loi sur la santé. Je me suis pris à imaginer ce que seraient les États-Unis si nous pouvions rassembler le pays de telle façon que le gouvernement s'attaque avec autant de maîtrise et de détermination à l'éducation de nos enfants ou à l'hébergement des sans-abri, applique la même persévérance et les mêmes ressources à réduire la pauvreté, diminuer les émissions de gaz à effet de serre ou faire en sorte que toutes les familles puissent recevoir des soins corrects. Je savais que ces idées étaient considérées comme utopiques jusqu'au sein de mon staff. Et le fait que nous soyons incapables de concevoir l'union de notre pays hors des situations où il nous fallait repousser une attaque ou vaincre un ennemi extérieur me montrait combien ma présidence était en deçà de ce que j'aurais souhaité et l'ampleur du travail qu'il me restait à accomplir. J'ai toutefois remisé ces réflexions dans un coin de ma tête et me suis autorisé à profiter de la fin de la semaine. Bob Gates a participé à sa dernière réunion du Conseil, lors de laquelle il a reçu une ovation chaleureuse et l'espace d'un instant parut authentiquement touché. J'ai passé du temps avec John Brennan, qui depuis une quinzaine d'années œuvrait de près ou de loin à la traque de Ben Laden. J'ai reçu Bill McRaven dans le bureau ovale, où je lui ai présenté mes sincères remerciements pour son extraordinaire commandement et offert un mètre ruban fixé sur une plaque commémorative. Et puis, le 5 mai 2011, 4 jours après l'opération, je me suis rendu à New York pour déjeuner avec les pompiers de l'Engine Company 54 Ladder 4 Battalion 9, qui avaient perdu leurs 15 membres de service le jour des attentats. Après quoi, j'ai assisté à une cérémonie poignante sur le site de Ground Zero. Certains des pompiers qui s'étaient précipités les premiers dans les tours en flammes faisaient partie de la garde d'honneur ce jour-là. Et j'ai pu rencontrer certaines familles des victimes du 11 septembre, dont Peyton Wall, que j'ai serré dans mes bras et qui m'a tout de suite demandé si je pouvais l'aider à rencontrer son idole Justin Bieber. Je lui ai répondu que cela devrait être faisable. Le lendemain, je me suis envolé avec Joe en direction de Fort Campbell, dans le Kentucky, où McRaven nous a présenté les SEALs et les pilotes qui avaient participé au raid d'Abbottabad. Pendant que le commandant reconstituait l'opération sur une maquette du complexe, j'ai étudié la trentaine de soldats d'élite assis devant moi sur des chaises pliantes. Certains, de jeunes hommes solides aux muscles saillants sous leur uniforme, avaient tout à fait la tête de l'emploi. Mais j'ai été frappé de m'apercevoir qu'une bonne partie d'entre eux, la petite quarantaine, grisonnant et discret, auraient aussi bien pu être comptables ou proviseurs de lycée. Ils étaient la preuve que les compétences et le discernement acquis par l'expérience se révélaient irremplaçables dans les missions les plus dangereuses. Une expérience, comme l'a rappelé le commandant, qui avait coûté la vie à beaucoup de leurs collègues. Une fois le briefing terminé, j'ai serré la main de tous ces hommes et leur ai décerné la Presidential Unit Citation, la plus haute distinction qui puisse être accordée à une unité militaire. Puis, à leur tour, ils m'ont fait la surprise de me remettre un cadeau, le drapeau américain qui les accompagnait à Abbottabad et qu'ils avaient encadré et signé au dos. Au cours de cette visite, aucun d'eux n'a jamais précisé lequel était l'auteur du tir qui avait tué Ben Laden. Et je n'ai pas posé la question. Pendant le vol du retour, Tom m'a fait un point sur la situation en Libye, j'ai passé en revue mon emploi du temps pour le mois à venir avec Bill Daly, et j'ai traité un peu de paperasse en retard. Vers 18h30, nous nous sommes posés sur la base aérienne d'Andrews, où je suis monté à bord de Marine One pour le court trajet jusqu'à la Maison Blanche. J'étais détendu. Par le hublot, j'ai observé le paysage du Maryland et les quartiers propres qui défilaient en dessous de nous, puis les reflets du soleil couchant sur le fleuve Potomac. L'hélicoptère a viré doucement et mis le cap au nord en travers du National Mall. Tout à coup, le Washington Monument s'est matérialisé sur la droite, si proche que j'aurais presque pu le toucher. À gauche, je voyais la statue de Lincoln assis dans les ombres, sous les colonnes de marbre du mémorial. Marine One a commencé à vibrer un peu, d'une manière que je connaissais bien désormais, et qui indiquait le début de la descente à l'approche de la pelouse sud. J'ai regardé la rue en contrebas, encombrée par la circulation à l'heure de pointe. Autant de travailleurs qui, comme moi, étaient pressés de rentrer chez eux.